Protestant boys are loyal and true, stout-hearted in battle and stout-handed too. The Protestant boys are true as of yore, and faithful and peaceful when danger is o'er.
Amis auditeurs, auditrices, bonjour. Aujourd'hui, j'ai la joie et la chance d'accueillir deux personnes. Pasteur Claudia Heidemann. Claudia, bonjour.
Bonjour. Allô.
Et Martine Lebrun. Martine, bonjour.
Bonjour Anne-Marie.
Avec vous deux, qui êtes toutes les deux membres du Conseil presbytéral de l'Église protestante unie de Montpellier et alentour, nous allons aborder un petit peu tout ce que cette Église propose et met en dynamique au niveau de Montpellier et alentour. Alors, alentour, vous nous préciserez peut-être ce que ça veut dire. C'est tous les villages qui, je crois, sont autour de Montpellier, puisque ça va jusqu'à Pignan, Cournon-Terral, de l'autre côté, au bord de la mer, etc., etc., ou dans les terres, Saint-Monteau, Saint-Dreserie, etc. Donc, peut-être que dans un premier temps, ce serait utile que vous puissiez vous présenter. Donc, Claudia, si vous voulez vous présenter, je vous remercie.
Merci beaucoup Anne-Marie. Oui, bonjour encore à tous et toutes. Moi, je suis donc Claudia, une des quatre pasteurs de notre église à Montpellier. Quoi vous dire sur moi ? Vous entendez à mon accent, j'imagine bien que je ne suis pas française, je suis danoise allemande, mais ça fait une vingtaine d'années que je suis déjà en France et dans l'église en France. Oui, et je suis pasteur à la Margelle, qui est un des secteurs de notre église. Et en même temps, en tant que tous les pasteurs, nous sommes membres de droit au Conseil presbytéral.
Merci beaucoup. Martine ?
Alors moi, c'est Martine, j'habite Grabelle. Je suis à Montpellier depuis une bonne vingtaine d'années. J'ai rejoint l'église protestante d'abord au centre-ville et ensuite à la Margelle, pour des raisons de proximité géographique. Donc la Margelle, c'est la communauté de La Paillade, dans le quartier de La Paillade. Voilà.
Merci beaucoup. Donc peut-être Claudia voulait nous présenter un petit peu plus concrètement cette église.
Oui, oui, comme je trouve le titre de cette émission, et je disais à Anne-Marie avant l'émission que un pour tous et tous pour un, ça résonne beaucoup dans mes oreilles, parce que c'est en quelque sorte ce que nous vivons à Montpellier. Faut savoir que dans l'Église protestante unie de France, en général, on a une association cultuelle avec un pasteur, mais à Montpellier, c'est particulier, vu que c'est une grande ville et que nous sommes une grande paroisse. Donc du coup, nous sommes une association, mais avec quatre pasteurs. Ce qui fait en même temps que chaque pasteur a un secteur, c'est géographiquement un quartier. Et comme disait Martine, on est dans le même secteur, la Margelle, c'est la Paillade, et après il y a une collègue Ingrid qui est maire et vigne, une autre qui est à Jacou, ça c'est Emeline, et notre collègue au centre-ville, Sébastien. Oui, c'est cette diversité qui fait la particularité de l'Épuma et qui m'est très chère, parce que je trouve c'est un modèle. Il est simple d'être une paroisse et tout est une paroisse. Là, on est une paroisse, mais avec quatre secteurs, ça veut dire qu'il y a cette envie, ce désir de garder les singularités de chaque secteur dans un ensemble. C'est un défi, c'est une richesse, c'est jamais gagné et ça se travaille chaque jour. Et du coup, un pour tous et tous pour un, ça résonne bien.
Merci beaucoup. Martine, vous voulez compléter ?
Là-dessus, sur la particularité de chaque secteur, c'est vrai que ce que dit Claudia, c'est un défi du Conseil presbytéral qui est un petit peu le groupe qui représente ces quatre secteurs et qui donne les impulsions. C'est un défi depuis plusieurs années de maintenir l'unité de cette Église qui rencontre des difficultés, presque quotidiennes, des difficultés de communication et de maintenir le cap, qui est de suivre Jésus et d'annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile.
Ouais. Merci beaucoup. Donc, comment concrètement les choses se mettent en place, se vivent, se travaillent, je ne sais pas, qu'est-ce que vous auriez envie de donner comme information voilà, de partager.
Comme disait Martine, l'ensemble se réunit dans ce conseil presbytéral, c'est la gouvernance. Mais après, chaque secteur, il a un propre conseil. Et là, c'est des gens du secteur qui sont désireuses de penser la vie. Du coup, à partir de là, on construit ensemble la vie du secteur, de ce qui nous semble intéressant à proposer aux gens qui viennent dans ce lieu-là. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Je suis le mieux placé pour moi, en tout cas pour la Magel, qui a un accent particulier sur l'action sociale. Donc c'est la foi dans le champ social, ce qui a d'ailleurs été une des raisons pour laquelle on m'a appelée sur ce poste. Et aussi l'interreligieux, parce que nous sommes à la Paillade bien entourés de d'autres églises. Il y a les catholiques à côté, mais à l'autre côté, on a nos amis musulmans. Et ça, c'est des relations dans l'interreligieux se vivent tous les jours.
Du coup, comment concrètement ces relations interreligieuses peuvent prendre sens dans le paysage, je dirais, social, culturel, politique de notre pays? Comment est-ce que donner du sens à ce partage interreligieux est aussi quelque chose d'important?
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que cette année, depuis 2 ans, on a renforcé cet échange avec les mosquées voisines et avec les catholiques, nos voisins. Et cette année, on a eu au moins déjà 3 séances qu'on appelle à la Paillade, enfin à la Margelle, qu'on appelle une question à la foi, FOI, ou sur un thème précis qui est donné à l'avance, les gens, n'importe qui peut prendre la parole après avoir expliqué comment sa propre religion conçoit le thème et après parler en jeu, c'est-à-dire moi musulman, moi catholique, moi chrétien, comment je conçois ce thème. Alors, pour être plus précise, les thèmes, ça a été le pardon, la prière et le pain, la nourriture, les règles, éventuellement les règles alimentaires prescrites ou recommandées par ma religion.
Et quel sens on donne à ça, effectivement, oui. Pardon.
Voilà.
Oui.
Et ça, c'est intéressant parce que ça montre que on a l'impression que chaque religion est en difficulté par rapport aux autres, où on fait monter les problématiques relationnelles, sociales, en disant que c'est la faute de telle ou telle religion. Vous démontrez qu'un dialogue interreligieux peut aussi être vecteur de paix et d'apprentissage à se connaître.
Oui, c'est ça.
Voilà, je dirais surtout, oui, c'est une découverte. En effet, de ce que chacun vit dans sa propre religion. J'ai oublié de mentionner les juifs qui sont très présents et actifs et vraiment représentés et impliqués dans ces ateliers, dans ces rencontres.
Oui, tout à fait. C'est une manière. La Margelle, en tout cas, on souhaite être un lieu qui peut ouvrir les portes à ces rassemblements qui sont fédérateurs. Justement, montrer qu'on peut se rencontrer, on peut se parler, on veut se découvrir et que ça peut se faire dans la paix, justement, dans les temps où on se comprend de moins en moins. On est petit, hein, la Margelle, elle est petite, c'est vrai, on n'est pas nombreux, mais il y a ce désir que je trouve presque militant, dans le bon sens du terme, d'être une présence sur place qui promouvoit cette rencontre fraternelle.
Puis c'est important de l'inscrire dans le temps, puisque la Margelle fête ses 40 ans cette année, et que ça a été, à l'origine, lorsque ce secteur a été créé, c'était une des dynamiques qui était justement proposée. Sur les autres secteurs, puisque selon où habitent nos auditeurs, ils peuvent peut-être avoir envie d'aller vers telle ou telle communauté, quelles seraient les dynamiques peut-être principales selon chaque secteur ?
On peut parler, par exemple, du centre-ville. Là, avec notre collègue Sébastien, c'est la culture. Ils viennent de recevoir cette nouvelle orgue, des concerts, des conférences. Il y a tout un pan qui s'ouvre par rapport à cette emplacement aussi au centre-ville, vraiment d'être aussi, pour, en tout cas je dirais ça avec mes mots à moi, c'est quand même notre église vitrine. C'est là où les gens passent, qu'ils soient croyants ou pas, et qu'ils peuvent découvrir par, à travers les offres culturelles aussi ce que c'est cette église, découvrir le temple qui est d'une beauté splendide. Voilà, ça, c'est, ce serait ce que je dirais pour le centre-ville. Je te laisse peut-être continuer pour un autre secteur.
Oui, il y a peut-être aussi un culte pause qui fait que les gens peuvent venir gratuitement,
exactement,
en toute simplicité, même peut-être de manière anonyme.
C'est ça, exactement. Qui s'ouvre à midi, les portes sont ouvertes, ils peuvent se placer, se poser, ils peuvent être restés anonymes s'ils veulent, ou bien aller plus loin, effectivement.
Oui, pour Mère et Vigne, que je connais moins. Alors j'en profite pour dire que les uns et les autres, on n'est pas forcément attaché définitivement à son secteur. On peut se déplacer. Et vu la proximité géographique, je dirais que les gens de Mère et Vigne, donc de Cournon-Terral, Pignan, etc., il me semble, viennent plus peut-être à la Margelle. Il me semble que pour eux, ça serait plus l'aspect écologie, soin de la terre, soin de la création. Ce serait peut-être ce qui les soucierait le plus avec des actions sur ce thème. Et puis à Jacou, je vais les laisser.
Jacou, c'est dans le titre du temple, c'est le centre œcuménique de Jacou. C'est la particularité de cet endroit, c'est que sous un seul toit, vous avez deux églises, donc l'église protestante, l'église catholique, et ils ont la même entrée. Effectivement, il y a l'œcuménisme qui se vit de manière très forte avec des... On vient de vivre la célébration, entrée en carême avec la célébration des cendres. C'est co-célébré, préparé ensemble. C'était un moment très fort. Donc il y a, la vie là-bas est très ponctuée par des événements comme ça.
Alors le secteur des Garrigues, je crois, regroupe à peu près 14 villages. Donc ça, c'est intéressant parce que ça prouve que le centre œcuménique est le lieu de rassemblement, mais qu'effectivement, voilà, il y a des gens qui peuvent habiter à Monteau, Sainte-Rézerie, etc. Mère et Vigne, ils ont deux lieux de culte, puisqu'ils ont Cournon-Terral, au temple, et puis Morin, où il y a une convention depuis des années, signée entre catholiques et protestants, qui utilise le même lieu. Donc ça, c'est aussi important de montrer, en termes un peu de continuité, comment l'Église protestante unie... de Montpellier et alentour, tissent des liens amicaux avec toutes les églises possibles, existantes. Je crois qu'il y a tout un travail aussi, qui est une des dominantes du pasteur de Mère et Vigne, sur les liens avec les églises évangéliques.
Oui.
Donc ça, c'est important de le signaler aussi. Ce n'est pas une église qui vit repliée sur elle-même, mais qui, au contraire, est ouverte.
Exactement.
Oui. Oui.
Ça s'appelle la fraternité. Et que, effectivement, il y a prochainement le Forum chrétien qui a été dans ce cadre-là déjà organisé et ça va être réorganisé cette année le 21 mars. Voilà, où tous les chrétiens de Montpellier, avec nos amis évangéliques et puis moi parmi d'autres, donc du coup, se retrouvent pour parler là encore en jeu. Moi et ma foi, en jeu.
Voilà. Comment vous définiriez, peut-être en quelques mots avant notre pause musicale, comment vivre sa foi en étant protestant, luthérien, luthéro-réformé, dans le monde actuel, sans pour cela faire de prosélytisme? Comment ça serait basé sur quoi, cette confiance en Dieu, à vous? En termes de témoignage, qu'est-ce que vous pourriez dire?
C'est une question très personnelle que tu poses là, Anne-Marie.
Oui, mais que vous pouvez peut-être décliner en matière plus, je dirais, plus large. Est-ce que, par exemple, la question d'accompagner les jeunes est quelque chose qui est une des préoccupations du Conseil presbytéral? Et du coup, ben, comment on accompagne des jeunes dans leur cheminement spirituel? Voilà, c'est aussi par le biais de telle ou telle action que vous pouvez le tricoter.
C'est très juste que, en tout cas, la jeunesse cette année, ça ne devrait pas être que cette année, mais effectivement, le Conseil presbytéral, c'est en effet un axe prioritaire pour la jeunesse. Oui, on essaie de les accompagner avec un groupe de jeunes. On a toute une activité jeunesse au niveau régional, donc des offres qui leur permettent aussi de partir avec d'autres dans des camps et faire se créer des souvenirs qui sont porteurs pour la vie en général. On vit des choses ensemble dans la foi. Il y a des moments où on discute des questions qui les préoccupent. Eux, c'est important qu'ils aient cet endroit aussi pour échanger avec d'autres jeunes. Voilà, leurs questions et du coup, on les accompagne dans ce cheminement. Et à l'EPIMA, vous avez un groupe de jeunes, mais vous avez aussi pour les plus jeunes, qui sont encore à l'âge à l'époque, on parlait d'école du dimanche et catéchisme. On a changé un peu la formule et les mots. On appelle ça speed date. Ce sont des dates, non pas speed. C'est l'allusion à cette jeu de mots anglais, speed date, qui était on se rencontre 2-3 secondes et après on passe à l'autre. Là, c'est date avec toutes les générations de la paroisse et les enfants de l'âge de 6 à 15 ans. Et SPI, c'est SPI, c'est spiritualité. Donc on fait toute une journée par mois avec un culte parent-enfant, avec un repas ensemble qui invite aussi les paroissiens, même s'ils ne sont pas parents. Voilà, pour qu'on tisse des liens entre nous. Et l'après-midi, on approfondit le thème du jour à travers une approche ludique, selon les âges, la lecture de la Bible, et voilà, débat. Ça dépend du thème.
Merci beaucoup. Je vous invite à la pause musicale que vous nous introduisez, Claudia.
On avait choisi un morceau de Bach qu'on vous laisse découvrir.
Retrouvons nos invités, pasteur Claudia Heidemann et Martine Lebrun, toutes les deux membres du conseil presbytéral responsable de la gouvernance de l'Église protestante unie de Montpellier et alentour. Et avec vous, nous allons continuer notre visite de ce que cette Église propose. Et peut-être, Claudia, vous vouliez repréciser qu'est-ce que veut dire l'Église protestante unie ?
Oui, tout à fait, parce que le monde protestant, il est grand, et juste qu'on puisse situer qui est cette église. Eh bien, c'est une église qui est évidemment chrétienne, qui s'enracine dans des convictions de la Réforme. Nous, cette église s'inscrit effectivement dans la tradition du message de la Réforme. Je vous cite Martin Luther, c'est pas le seul, hein, mais un des réformateurs, mais qui dit bien les axes de notre foi. Le chrétien vit de la seule grâce de Dieu, dans la foi seule, fondée sur la seule Écriture. Autrement dit, chaque être humain est accueilli dans notre Église tel qu'il est. La valeur de l'homme, elle ne se définit pas par rapport à ce que nous sommes, qui nous sommes, ce que nous faisons, mais tout simplement, uniquement, par l'amour que Dieu porte sur chaque être humain. Et donc ça donne une grande ouverture. Nous accueillons sans condition l'autre, parce que nous sommes tous égaux devant Dieu, on est tous imparfaits, et c'est lui qui nous accueille tel que. Donc c'est des mots théologiques, peut-être démodés, qu'on ne comprend plus trop bien. Grâce, qu'est-ce que ça veut dire? Mais en gros, ça veut dire ça, qu'on est aimé tel qu'on est. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi dans la vie. Hein. Nous sommes effectivement appelés à être libres et responsables. Donc on est, une fois qu'on a compris que nous sommes aimés tel que, eh ben, ça nous rend libres d'être responsables dans ce que nous faisons dans ce monde. Et notre Église se veut ouverte. Et elle veut aussi travailler pour un monde plus juste et humain. Je ne prends pas le mot fraternel parce que je trouve fraternité aujourd'hui, je ne sais plus trop. Je trouve que ça perd un peu son sens. Mais évidemment, on est tous frères et sœurs en humanité, ça oui.
Et du coup, pour pouvoir peut-être donner du sens à ces mots que vous avez cités, il y a ce que vous appeliez des ateliers, de lecture biblique ou autres, oui, qui ont lieu sur tous les secteurs et auxquels les personnes peuvent aller comme ça, gratuitement, sans qu'il leur soit demandé un papier ou un autre au début.
Oui, oui. Alors, par exemple, à la Margelle, on se réunit en gros une fois par mois, le samedi matin, pour lire... le livre de Dietrich Bonhoeffer, « Vivre en disciple », chacun prend la parole, il n'y a pas de préséance, il n'y a pas d'animateur au groupe, et c'est très enrichissant parce que c'est un approfondissement personnel pour chacun, et on discute. Alors, dans les autres secteurs, par exemple, à Jacou, Emeline, organise une lecture continue de l'Apocalypse. Je crois que c'est un thème très actuel, justement, ça démystifie un peu et ça fait comprendre la profondeur du texte. Sur les autres secteurs, Claudia, peut-être
nous avons notre collègue Sébastien qui est plutôt sur le catéchisme. Tout à l'heure, on parlait des jeunes, lui, il est plutôt sur le catéchisme des adultes. Et il fait aussi une lecture biblique sur l'épître des Corinthiens, qu'on peut trouver chez lui. Ingrid, elle a le groupe Un parfum de scandale. Donc il y a, en ce moment, ils lisent les livres d'Exode, Moïse. Donc voilà, chaque secteur a ses manières de faire écho de la parole de Dieu. Je rajoute pour la Margelle, qui est un peu... oui, c'est la lecture de Bonhoeffer, ça c'est un livre sur le livre de Dieu, si on peut dire. Nous avons des cultes méditatifs qui sont une manière aussi de, pour moi, très fidèle au message de la Réforme, qui est de rendre chaque membre autonome dans son écoute de la parole. Nos cultes méditatifs laissent espace pendant le culte d'écouter ensemble cette parole. Donc voilà, c'est une autre manière d'une étude biblique qui se vit dans un cadre avec musique, avec temps de silence, et qui convient à des gens qui cherchent quelque chose de plus lent. J'appelle ça un culte qui prend son temps.
Ce qui est intéressant au travers de ce que vous dites, et l'une et l'autre, c'est la manière dont la Bible, qui est, on le sait d'après les études, le livre le plus lu et le plus traduit au monde, peut aussi être utile à des gens qui ne croient pas ou qui sont en cheminement. Et du coup, l'Église protestante unie de Montpellier alentour propose des temps diversifiés ou divers pour pouvoir permettre justement de découvrir au travers de tel ou tel texte biblique, ce que vous nommez la parole de Dieu, je pense.
C'est bien ça.
C'est bien ça. Eh bien voilà. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur la notion de transversalité? Vous vouliez revenir sur cette question?
Oui. Ah, Martine, on avait dit tout à l'heure, tu l'avais dit, qu'effectivement on bouge, on n'est pas que dans son secteur. Et effectivement, c'est toujours encore une fois l'enjeu de cette une pour tous et tous pour un. L'idée, c'est qu'effectivement, il y a des secteurs, mais pour vivre l'unité, il faut connaître l'autre. Et donc, nos offres sont évidemment tous ouvertes à tous les Pumas et on espère que voilà, les gens prennent le chemin pour aller dans l'autre secteur. Et d'où aussi la chance, ce que je trouve que notre paroisse, avec la diversité, on a 4 pasteurs complètement différentes, les paroissiens sont tous singuliers, et bien comme ça, cette diversité, on va là où il y a quelque chose qui fait écho. Et ça permet de tisser des liens entre les secteurs. Ça me semble très important. Mais qu'est-ce que tu rajouterais, Martine?
Oui, tout d'un coup, il me vient l'idée qu'on organise sur le plan de l'ensemble de Montpellier un pôle visite. On se rend compte que les pasteurs sont assez surchargés, que le lien personnel pose problème par manque de temps pour beaucoup de personnes. Et du coup, on est en train de réorganiser ça au niveau justement de l'ensemble de Montpellier, pasteurs et laïcs travaillant à mettre en place une charte et à organiser très concrètement des visites chez les uns, chez les autres, les personnes qui sont seules, ou isolés, ou malades, ou fatigués, ou trop âgés pour se déplacer au culte, aux ateliers bibliques, etc. Bien, on prend date et on s'organise par secteur géographique, mais pas forcément pour aller voir ces personnes. Mmh.
Ça nous permet de mettre quand même dans le lot encore notre 5e collègue, même s'il est, elle est pasteur aumônier au CHU, mais nous avons Corinna Thomas qui effectivement est à l'origine de ce pôle visite. Et merci à elle.
Et donc du coup, pour donner sens à cette parole et permettre à chacun de la découvrir, vous avez, je crois, au niveau de l'Église aussi, un accompagnement plus spécifique qui peut être des familles à l'occasion d'une demande de baptême, de mariage ou d'obsèques.
Tout à fait. Oui, ça, c'est là aussi les demandes qui nous ont faites. C'est la pastorale qui, c'est pas, ça, c'est encore une fois pas organisé par secteur, mais au niveau de l'EPUMA. Et nous partageons donc ces accompagnements qui parfois sont très individuels et parfois on peut aussi regrouper. Et, par exemple, là, j'ai eu l'année dernière 4 demandes qui sont venues individuellement des jeunes adultes. Bon. Ça commençait avec un accompagnement individuel, mais à un moment donné, on les fait aussi se rassembler, se rencontrer et à nouveau l'occasion de tisser des liens.
Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Donc je crois que sur Google, tout un chacun peut trouver les informations concernant l'Église. Claudia, oui, vous avez un site à donner peut-être?
Oui, montpellier.epduf.org et vous allez trouver toute notre documentation, mais aussi les actualités que Sacha Perzov, notre webmaster, met bien en évidence.
Merci beaucoup Claudia, merci beaucoup Martine, et merci aussi à Léonie qui est à la régie, et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.
Protestant boys are loyal and true, stout-hearted in battle and stout-handed too. The Protestant boys are true as of yore, and faithful and peaceful when danger is o'er.